Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
RTL. Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Et ce soir, à l'occasion du Salon du Cheval, nous sommes curieux de l'histoire de l'équitation avec Rosine Lagier, conférencière, présidente de la Société Hippique d'Épinal et de la Commission fédérale, ex-présidente de la Société Hippique d'Épinal, parce que sinon vous allez vous faire des ennemis. Et la Commission fédérale des Amazones, vous êtes présidente toujours ou...
Non,
ah, bah, voilà, bah,
plus présidente.
Comme quoi, on m'a donné des bonnes infos qui datent elles aussi d'il y a quelques années. Pas d'il y a un siècle, mais d'il y a quelques années. Alors, on va revenir sur l'histoire du cheval... il y a un siècle, mais d'abord, je voudrais que vous nous parliez des Amazones, parce que ça m'intrigue. Donc, vous montez en Amazone, vous, encore aujourd'hui ?
Ah oui, ouais. Je ne monte qu'en Amazone.
D'accord. Et comment elles ont été accueillies, les Amazones ? Non, à l'inverse, comment ont été accueillies les premières femmes qui ont osé monter, comme des hommes, à Califourchon ?
Alors, au départ, les femmes montaient à Califourchon comme les hommes, bien entendu, jusqu'à Catherine de Médicis, à qui on prête donc la légende d'avoir voulu montrer ses belles jambes et ses jolies chevilles. Mmh. Et à partir de là, on a monté en Amazone jusqu'en 1898 exactement, où quelques Américaines sont arrivées à Paris avec une équitation qui était redevenue moderne. Et donc, c'était la monte à Califourchon comme les hommes et en culotte comme les hommes.
Qu'est-ce qu'on disait
d'elle alors ? Ce qui a choqué terriblement. Partout dans les journaux, on disait les femmes montent à Califourchon comme les hommes. Quand cracheront-elles par terre ? Quand jureront-elles comme les hommes ?
Et ben, tout
c'était
ça est
vraiment
arrivé,
la honte. Et c'est sans doute Coco, Colette et son cheval Coco qui ont relancé l'équitation à Califourchon et on n'a pas osé se moquer d'elle en fait. Ainsi qu'une Américaine qui était une grande écuyère de cirque, qui montait très très bien, qui montait même mieux que certains hommes à cheval. Et de là donc l'équitation à Califourchon a repris jusqu'en 1912 où quand même elles ont été lapidées. Les femmes qui montaient à cheval ont été lapidées.
Ah oui, c'était radical. En France ?
Oui, en France, oui.
Ils montaient à Califourchon ?
Oui, à Califourchon. Elles sont, en fait, il y a eu une présentation de mode de jupe culotte à Auteuil, sur le champ de course. Mmh. Et les mannequins et les cavalières qui étaient venus présenter la mode ont été littéralement lapidés, si bien qu'on a dû faire venir la police pour pouvoir les dégager. Donc c'était encore pas gagné en 1911-1912.
Bon, on reparlera de l'équitation et des femmes. D'abord, vous étiez au Salon du Cheval, je crois, hier et aujourd'hui, c'est
voilà,
ça ?
Voilà, pour dédicacer mon livre.
Pour dédicacer votre livre, il y a un siècle, Le Cheval, publié aux éditions Ouest France. C'est toujours une passion française, le cheval ?
Ah oui, c'est une plus que jamais. C'est la troisième fédération sportive de France par le nombre de licenciés, la Fédération Française d'Équitation.
Il y en a combien à peu près de licenciés, vous savez ?
Écoutez, le chiffre exact, je ne sais pas. Il y a beaucoup de licenciés, il y a aussi des cavaliers à côté. Mais troisième fédération, ce que l'on sait par contre, c'est qu'il y a 9 femmes pour un homme maintenant qui monte à cheval. C'est devenu une équitation très féminine, alors que pendant longtemps, c'était surtout, enfin dans les compétitions surtout, déjà réservé aux militaires, ensuite aux civils, et bien après aux femmes.
C'est un sport qui coûte cher, l'équitation ?
C'est un sport qui est relativement cher. Oui, si l'on veut avoir son cheval, évidemment.
Oui, là, ça coûte très cher.
C'est quand même coûteux, surtout... bon, il y a les frais vétérinaires, il y a les vermifuges, il y a le ferrage, il y a tout le harnachement, à la fois pour le cavalier, à la fois pour le cheval.
Mais dans les clubs...
Mais sinon, dans les clubs,
si
non,
cheval,
non c'est devenu un sport quand même très, très populaire, très accessible. Par rapport au 19e siècle.
Alors justement, on va remonter un siècle en arrière. D'abord pour parler des transports, est-ce que c'est vrai qu'il y avait des embouteillages à Paris en 1900 à cause des chevaux ?
Alors c'est assez drôle, imaginez-vous ouvrir vos volets à 6h du matin dans Paris et déjà trouver 80 000 chevaux dans les rues. Tout se faisait évidemment avec des chevaux, tous les transports. Il y avait déjà 13 000 voitures particulières pour les achats, pour se rendre au travail. Il y avait les fiacres qui servaient de taxi. Il y en avait à peu près 15 000 aussi. Il y avait à peu près 15 000 omnibus attelés à trois chevaux qui transportaient environ 80 personnes par omnibus. Et puis, il y avait toutes les voitures annexes, c'est-à-dire, bien sûr, les voitures de livraison pour achalander les grands magasins, pour apporter les marchandises aux personnes. Il y avait, bien sûr, hygiène oblige, il n'y avait pas le tout à l'égout. Donc, il y avait pour le ramassage des sous hygiéniques que l'on appelait, excusez le terme, c'était le terme que l'on donnait à l'époque, c'était la pompe à merde, que l'on appelait quelquefois plus poétiquement la pompe porte-bonheur.
Ah, c'est joli.
Plus poétique.
C'était plus poétique.
Est-ce qu'il y avait de marcher dedans, effectivement.
Des entreprises de transport, c'était un véritable business, comme peut le faire la SNCF ou les taxis bleus aujourd'hui, par exemple.
Oui, il y avait toutes les livraisons se faisaient déjà avec des chevaux. La poste, le ramassage du courrier.
Il y avait des sociétés qui en avaient fait un business, c'est-à-dire que ces fiacres, ces omnibus, etc.
Bien sûr.
C'était pas une personne qui était propriétaire
de son
fiacre.
Alors, la société des omnibus, par exemple, avait environ 18 000 chevaux. Imaginez-vous, tous ces chevaux étaient logés quand même dans Paris. Les 18 000 chevaux de la société de transport des omnibus étaient logés dans des écuries à trois étages. C'est-à-dire que le premier étage et le deuxième étage étaient réservés aux chevaux. Au troisième étage, on préparait leur nourriture qui venait des caves, qui montait au troisième étage, qui était moulue. Parce qu'on ne nourrissait pas les chevaux comme maintenant, c'était avec des féveroles, du blé, du maïs, du riz, du tourteau, c'est-à-dire les restes des distilleries, le foin, la paille. On préparait tout cela au troisième étage et par des trémies, ça descendait donc pour nourrir les chevaux qui se trouvaient au premier et au deuxième étage. Au rez-de-chaussée, il y avait toujours aussi une infirmerie, parce qu'on prenait beaucoup de soins. Le cheval était quand même un animal qui, à cette époque, cela coûtait assez cher, bien que l'on en trouvait beaucoup. Le prix du cheval était élevé. À peu près pour avoir un cheval normal, c'était l'équivalent de 3000 euros. Quand on pense que le salaire était l'équivalent de 80 euros, ça représentait une petite fortune. Et les beaux chevaux pouvaient monter jusqu'à 13 000, 15 000 euros. L'équivalent de 13 000, 15 000 euros.
On est dans la France du début du XXe siècle. Quelle race de chevaux était utilisée pour le transport? Que faisait-on du fumier, tiens? Et puis les chevaux, est-ce qu'ils avaient droit à des jours de congé? On répond à toutes ces questions dans un instant sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France.
La curiosité d'un vilain défaut.
Jusqu'à 22h.
Voilà les chevaliers du ciel.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Dans les tournois comme les tests d'autrefois. Voilà les chevaliers du ciel.
RTL.
Ils en font du bruit, ces chevaux. Et ce soir sur RTL, on vous raconte l'histoire justement du cheval. Un siècle de cheval en France grâce à notre invitée Rosine Lagier, conférencière passionnée d'équitation. Alors le cheval, c'était le moyen de transport principal des Français au XXe siècle, bien sûr. Et à partir de quand est-ce que la voiture l'a supplanté, en fait, ce cheval?
À la fin du 19e siècle.
Alors, ça
commençait déjà. Le moteur, on s'essayait dans la recherche pour le moteur. Et là, j'ai une petite anecdote assez drôle qui m'a interpellée. C'est que dans les années 1900, 1905, Paris notamment a connu de très grosses canicules. Et à ce moment-là, la SPA a eu pitié des chevaux et leur a distribué gratuitement des chapeaux. Et à ce moment-là, aux chevaux.
D'accord.
Il y a même eu des concours avec le plus beau chapeau. Il y a même eu un musée. Malheureusement, je n'ai retrouvé aucune trace de ce musée. Mais les chapeaux étaient venus même de pays étrangers parce que c'était devenu une mode pour les chevaux en été. Ceux qui travaillaient dans les vignes, aussi bien dans le sud de la France qu'à Paris, on mettait des chapeaux de paille, des chapeaux de crin. Il y a eu toute une mode de chapeaux pour chevaux.
Et ça les protégeait vraiment de la chaleur ?
Non, tête, il faut c'est, dire c'est qu'après, même, ouais. Il y a eu des essais et on s'est rendu compte qu'il valait mieux leur laisser le toupet et la crinière et que c'était très bien.
Pour
très bien comme ça.
Des mouches, c'est mieux.
Voilà. Ouais. Et à ce moment-là, on s'est interrogé, 1900, 1905, plusieurs années avec la canicule, qu'est-ce qui fait que cette chaleur subite, eh bien, c'est le crottin des chevaux. Donc, il faut essayer d'éliminer les chevaux au maximum. Et là, le gouvernement a commencé à réfléchir si la solution n'était pas dans la voiture.
D'accord.
Pour remplacer les chevaux et leurs crottins.
Donc on croyait que c'était le cheval qui était responsable du réchauffement climatique.
Absolument.
En 1905, c'est très drôle.
Justement, le cheval qui est donc le mode de transport des Français pendant de nombreuses décennies. Et tout ce crottin de cheval, on en faisait quoi ? C'était toute une organisation, j'imagine.
Alors justement, oui, tout à l'heure, je disais que dans Paris, il y avait environ 80 000 chevaux, quelquefois 120 000 selon les heures de la journée. Il y avait le transport, on a vu tout à l'heure, mais il y avait aussi les pompiers, les ambulanciers, etc. Enfin, tout se faisait avec les chevaux. Et là, on n'utilisait pas de paille comme maintenant. On faisait beaucoup d'essais, on cherchait, et l'idée était de remplacer la paille par de la tourbe. La tourbe était beaucoup plus absorbante pour l'urine, empêchait les odeurs, neutralisait les odeurs, et on s'est aperçu aussi que c'était finalement le meilleur des engrais. Et tout autour de Paris, il ne faut pas oublier que sur toute la couronne autour de Paris, il y avait beaucoup de maraîchers. Il y avait des champignonnières et en fait, on ne remplaçait pas la tourbe de trop dans les écuries. On se contentait de ramasser là où la tourbe était imbibée par l'urine ou le crottin du cheval. Donc en fait, on n'utilisait pas énormément de tourbe dans ces écuries qui pouvaient tenir jusqu'à 1500 chevaux.
Mais Rosine Lagier, dans la rue Tout le crottin de cheval, il fallait bien récupérer, qu'est-ce qu'on en faisait, comment ça marchait?
Alors il y avait des ramasseurs de crottins, rien ne se perdait. Il y avait des ramasseurs de crottins, le crottin se vendait aussi dans la rue. C'était les mégisseries qui se servaient du crottin pour la pousserie, pour le cuir.
C'est-à-dire pour en faire quoi?
Alors on trempait les peaux, en fait, les macérations avec le crottin développaient des bactéries qui nettoyaient les peaux avant qu'on ne les tanne.
Quelle était la race des chevaux qu'on utilisait pour le transport?
Il y en avait plusieurs.
Alors il y avait beaucoup de percherons pour les omnibus surtout. Et puis
c'est quoi un percheron? Ça ressemble à quoi? C'est costaud, c'est
ça? Ce sont des chevaux qui sont robustes, bien sûr, assez rustiques et robustes, puisque les omnibus qui transportaient 80 personnes, on les attelait à 3 percherons. Donc vous voyez un petit peu la force qu'avaient ces animaux. C'était tous ces chevaux étaient en fait coucounés. Bon, on dit Paris était l'enfer des chevaux. Oui, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'accidents quand même. Imaginez-vous toutes ces voitures avec un cheval qui est quand même imprévisible. Donc il y avait des chevaux qui s'emballaient, des chevaux qui se couchaient sur les pavés glissants quelquefois. Et tout cela a occasionné pas mal d'accidents. L'accident qui était le plus redouté en fait à ce moment-là par les cochers, c'était l'éventration, la rupture d'intestin des chevaux. Lorsqu'ils étaient garés le long du trottoir et qu'il fallait qu'ils sortent quand il y avait plusieurs fiacres ou voitures hippomobiles garées. Mmh. Il fallait sortir ces lourdes voitures avec quelquefois 80 personnes du lieu de garage pour reprendre la chaussée. Et les chevaux s'arc-boutaient. Et l'accident qui était le plus craint, c'était la rupture d'intestin pour ces chevaux. Il y en avait pas mal.
Est-ce qu'ils avaient des jours de congé?
Alors les chevaux avaient des jours de congé. En principe, les chevaux de fiacre travaillaient 4 heures dans la journée. Bon, c'était assez pénible parce que bien sûr c'était souvent au trot ou au galop, même qu'ils faisaient leur course. Il y avait des temps d'attente, il faisait quelquefois froid ou il pleuvait et on craignait aussi bien entendu les bronchites, les problèmes respiratoires qui pouvaient arriver aux chevaux. Donc, un cheval de fiacre, en général, ne travaillait que 4 heures. Et les chevaux d'omnibus ne faisaient qu'une courbe, ils ne faisaient qu'une qu'un trajet, et il retournait aussi se reposer. Et ce qui est amusant, c'est que ces chevaux bénéficiaient de colonies de vacances. La société des omnibus avait à environ 20 kilomètres de Paris une très grosse colonie de vacances pour chevaux qui faisait plus de 200 hectares, et tous les chevaux sans exception partaient 15 jours en vacances. Donc ils partaient bien sûr à pied, enfin à sabots, si on peut dire, et les éclopés partaient dans des voitures qui étaient tirées par les chevaux les plus vaillants jusqu'à leur lieu de vacances.
Le cheval, moyen de transport, mais aussi outil de travail dans les champs, à la mine. La France est développée grâce à des races choisies, adaptées. On vous raconte comment ce soir sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
C'est le Salon du Cheval jusqu'à dimanche au Parc des Expositions de Paris-Nord-Villepinte, et ça nous a donné envie de vous raconter, grâce à notre invitée Rosine Lagier, l'histoire de ces chevaux et de tout ce qu'ils ont apporté à la France. Rosine Lagier, dans votre livre, vous remontez un siècle en arrière, et là on va parler des chevaux outils de travail. Dans les mines, par exemple, on en utilisait beaucoup ?
Oui, on utilisait beaucoup de chevaux dans les mines, évidemment. Il y avait environ 26 000 chevaux qui travaillaient dans les mines, et en 1926 encore, on en comptait, malgré la mécanisation et l'outillage moderne qui arrivait, on en comptait encore 10 000. En 1926, en 1960, encore 130. Alors là, il y a une façon très particulière de descendre les chevaux dans la mine. En fait, pour ne pas qu'ils s'étouffent en descendant, on les couchait sur un lit de paille, on leur entravait leurs membres, on les enfilait dans une sorte de gros harnais de cuir, et on les descendait croupe en avant, tête en l'air. Ils étaient suspendus dans un harnais, un filet, on va dire, en cuir. Ils étaient suspendus, donc la tête en haut, et la croupe descendait la première. Ils avaient les membres repliés sous le ventre, et on les descendait comme ça dans le goulet qui allait jusqu'au fond de la mine. Et souvent, ces chevaux, d'ailleurs, subissaient avant un dressage particulier, parce qu'il fallait qu'ils puissent supporter un casque de cuir toute leur vie, pour ne pas s'abîmer le front, le chanfrein, dans les boyaux qui étaient bas de plafond.
Mais justement, c'est ce que j'allais vous demander. Je suis descendu une fois dans une mine en Lorraine. Il y a des espaces qui sont quand même évidemment confinés, mais pas très hauts. Donc, on choisissait des races particulières aussi pour
descendre. Alors, c'était souvent des poneys, des gros poneys puissants qui descendaient dans la mine, dans l'obscurité. Hein. On les habituait à travailler dans l'obscurité, sur les rails. Ils tiraient les wagonnets. Et là, beaucoup de mineurs, j'ai retrouvé des récits de mineurs qui disaient qu'en principe, donc, un cheval était capable de tirer une vingtaine de wagonnets pouvant atteindre 400 kilos chacun. Et quand, pour essayer de rabioter un petit peu de temps, on essayait de leur mettre un 21e wagonnet, la plupart des chevaux refusaient de partir. À chaque wagonnet qu'il tirait, en fait, il y avait un clic des chaînes, et il paraît qu'un cheval qui avait un petit peu l'habitude, il savait compter, en fait, jusqu'à 20, et au 21e wagonnet, pas moyen de faire partir le cheval, il fallait décrocher le 21e wagonnet, et il partait avec les 20 wagonnets, quelquefois sur plusieurs kilomètres.
Magnifique. Quand on faisait descendre ces chevaux dans les mines, c'était pour combien de temps? Parce qu'à un moment, vous dites qu'ils portent des casques en cuir, ils doivent s'y habituer pour toute leur vie.
Ils ne
passent pas toute leur vie dans la mine. Ils sont descendus.
Ils passent toute leur vie dans la mine. En principe, on ne les remontait pas, parce que la plupart du temps, déjà, ils perdaient la vue. Le fait de vivre dans l'obscurité, ils perdaient la vue. Pourquoi l'obscurité? Parce qu'on craignait le grisou. Il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, les mines n'étaient pas électrifiées. C'était des lampes à pétrole, des lampes à huile. Donc, les chevaux étaient habitués à travailler dans l'obscurité. Donc, on ne les remontait pas. Déjà, vous voyez l'effort qu'il fallait faire pour les descendre dans la mine. Vous vous imaginez que le chemin inverse suspendu, c'était encore plus difficile.
L'espérance de vie, c'était de combien de temps pour un cheval?
Alors, c'est ça qui est vraiment extraordinaire. C'était un travail très pénible, mais c'était là où les chevaux vivaient le plus longtemps. Ces pauvres animaux vivaient quelquefois jusqu'à 30 ans et ils travaillaient donc jusqu'à 30 ans. On ne les remontait à la surface qu'à l'état de carcasse. Mmh. Pourquoi ils vivaient longtemps? Tout simplement parce que, bon, ils bénéficiaient de soins correct, il faut le dire, bien qu'il vivait avec les rats dans les profondeurs, ils avaient quand même une nourriture et des soins appropriés. Et la température, ils ne subissaient aucune différence de température. Ils vivaient dans une atmosphère constante en humidité et en température.
Pas de rhume.
Et c'est là où ils vivaient, hélas pour eux, le plus longtemps, jusqu'à une trentaine d'années. Et ils travaillaient donc de l'âge de 4 ans où on les descendait jusqu'à 30 ans dans ces mines.
Pendant la guerre de 14 maintenant, on va raconter cette histoire, Rosine Lagier. Quel rôle ont joué les chevaux? D'où venaient-ils? Combien furent tués sur le front? Restez avec nous, on vous raconte l'histoire du cheval de guerre dans un instant sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL. Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
On vous raconte l'histoire de France, mais vue d'en haut, bien assis sur la selle, sur le dos d'un solide percheron ou d'un anglo-arabe taillé pour la course avec Rosine Lagier, qui publie « Il y a un siècle, le cheval » aux éditions Ouest France. Quelle race était mobilisée pendant la guerre de 14, Rosine Lagier?
Il n'y avait pas une race particulière qui était mobilisée pendant la guerre de 14 parce qu'on avait vraiment besoin de beaucoup de chevaux. L'armée, en temps normal, en 1913, c'est-à-dire juste un an avant la déclaration de guerre, l'armée avait déjà 135 000 chevaux, à peu près, pour sa cavalerie, pour l'artillerie, pour ce qu'on appelait le chemin de fer. Et en cas de guerre, on était obligé de mobiliser les chevaux et on tapait dans les chevaux réservés. C'est-à-dire que les agriculteurs, les commerçants devaient déclarer leurs chevaux et selon les toises des chevaux, on les répartissait, ils étaient donc mobilisables selon leur poids, selon leur taille, dans six catégories qui répondaient à environ six régiments qui avaient besoin de chevaux.
Et combien de chevaux ont été ainsi envoyés au front?
En plus?
Alors là, je dois dire que ce fut une boucherie, cette guerre, cette première guerre mondiale, pour les hommes, bien sûr, mais pour les chevaux aussi. Début 1915, on a déjà déploré donc l'armée 135 000 chevaux en 1913. Et au début de 1915, il y en avait déjà 128 000 qui étaient tués. Donc l'année suivante, le chiffre est passé carrément à 758 000 chevaux tués. Donc on s'est
uniquement
dit qu'il
faut... pour l'armée française ou
uniquement
des deux côtés?
Pour l'armée française, uniquement sur la France. Et quand on a terminé la guerre, il y en a eu 1 140 000 tués.
Ils étaient tués comment?
Donc très vite, on s'est dit qu'il fallait non seulement mobiliser tous les chevaux. Prendre les chevaux de l'agriculture, naturellement, mais aussi faire venir des chevaux de l'extérieur. Donc, on a fait venir des chevaux d'Amérique, des Mustangs, qui étaient pratiquement des chevaux à demi sauvages. Et comme on était encore à l'époque d'une grosse colonisation. Donc on avait beaucoup de colonies, que ce soit les Britanniques ou les Français.
On peut le dire comme
donc
ça.
Les Britanniques ont fait venir les armées sikhs d'Inde, avec leurs chevaux, et nous avons fait venir nos régiments de Spahis avec les chevaux. Et on s'est aperçu, notamment avec nos régiments de Spahis, que les chevaux arabes étaient souvent des chevaux à la robe claire et donc souvent visibles et souvent cibles des tireurs. Donc on a trouvé la solution de l'éteindre. Donc à partir de 1915, tous les chevaux à la robe claire ont été teints dans des couleurs plus foncées, noires, marron, pour qu'ils soient moins visibles.
Mais je vous demandais comment ils ont été tués. Est-ce qu'ils étaient protégés, ces chevaux? Est-ce qu'ils étaient caparaçonnés? Est-ce qu'il y avait des masques à gaz?
Caparaçonnés, non, pas du tout. En revanche, oui. Parce qu'au départ, les chevaux ont été tués par les gaz asphyxiants. Et donc, très vite, on leur a mis des masques à gaz, comme aux hommes, comme aux chiens, d'ailleurs, aussi, puisque il y avait beaucoup de chiens qui faisaient les liaisons pour les des messages et on a mis des masques à gaz à tous les animaux, chevaux, chiens qui étaient avec les hommes. Et donc on s'est rendu compte aussi en 1914 qu'il y avait beaucoup de chevaux blessés. Et malgré tout, tous ces soldats qui vivaient la guerre avec leurs chevaux s'y attachaient profondément. Et la France a fait venir la Croix Bleue. La Croix Bleue, donc, ce sont les Britanniques qui ont été les premiers à s'intéresser à la santé des chevaux, aux chevaux blessés. Et donc, il y a eu des hôpitaux qui se sont installés sur le front. Et on a pu sauver ainsi environ 530 000 chevaux par rapport aux 750 000 qui leur avaient été confiés. Mmh. Et ces chevaux blessés qui ont pu être sauvés ont été rendus à la fin de la guerre aux agriculteurs. En revanche, aucun cheval étranger n'est reparti chez lui.
D'accord. Dans votre livre, il y a un siècle, le cheval publié aux éditions Ouest-France, Rosine Lagier. Donc, il y a des photos, beaucoup d'illustrations, notamment une photo d'un cheval en train d'être soigné justement par la Croix Bleue dont vous parliez. Puis alors, il y a une espèce de bande dessinée. C'est une série de cartes postales qui montre avec humour la vie des soldats dans un régiment de cavalerie. Vous pouvez nous les décrire un petit peu. C'est quoi l'entrée en relation, par exemple, le premier contact entre un cheval
et son exactement. C'est une série de 16 cartes postales, assez rare. Maintenant, on ne la trouve pratiquement pas complète. J'ai la chance d'avoir cette série de cartes postales complètes. 16 cartes postales qui racontent tout simplement les débuts dans un régiment de cavalerie. Donc, quand le jeune soldat arrive, prend connaissance avec son cheval, apprend à monter à cheval, apprend à soigner son cheval avec tous les déboires qui peuvent évidemment suivre cette école du cheval.
Rosine Lagier, vous nous l'avez dit au début de cette interview que vous aimez monter en Amazone. Pourquoi ? Parce que ça vous rappelle, je ne sais pas, une époque que vous n'avez pas connue, que vous trouvez assez élégante, c'est pour ça ?
Ben tout simplement, c'est la curiosité qui n'est pas un vilain défaut.
Bravo.
Mais en ayant découvert une selle d'Amazone ancienne dans un grenier, je me suis posé la question de savoir comment on pouvait monter sur ces selles. Et donc, j'ai cherché à faire l'apprentissage de cette équitation qui, vers 1950, avait perdu ses lettres de noblesse, puisqu'à ce moment-là, les femmes montaient à califourchon et avaient abandonné l'équitation en Amazon.
Expliquez-nous concrètement, quand on est sur la selle, on a les jambes d'un côté, c'est ça
Alors, en principe,
on est un peu tordu pour guider son cheval.
On n'est surtout pas tordu. Donc, on est bien en face de son cheval, exactement comme si nous étions à califourchon. Simplement, les deux jambes se mettent du côté gauche, si c'est une selle avec les fourches à gauche. Un nom qui paraît rébarbatif, mais la selle est très confortable.
Et les jambes sont croisées?
Les jambes ne sont pas vraiment croisées. Elles sont posées l'une sur l'autre et maintenues par des fourches.
Ça s'apprend? Il y a des écoles d'Amazone?
Mais bien sûr, il y a beaucoup d'Amazones, environ 5000 cavalières qui montent en Amazone en France, beaucoup plus en Angleterre, en Allemagne, en Suisse.
Vous faites des concours de sauts d'obstacles
oui,
en Amazone?
Oui, bien sûr. Et il y a même une cavalière étrangère qui saute plus de 2 mètres en Amazone. Mmh. Il ne faut pas oublier que c'est une équitation qui était réservée aux dames de la noblesse, essentiellement pour suivre les chasses à cour. Et ces femmes étaient vraiment des intrépides qui sautaient absolument tout dans le train de la course, y compris les fossés, y compris les arbres couchés. Et c'est une équitation qui est beaucoup plus sécurisante, qui est très féminine naturellement, mais qui est beaucoup plus en sécurité qu'on ne le croit.
Vous disiez 9 femmes font de l'équitation, enfin sur 10 pratiquants d'équitation, il y a 9 femmes aujourd'hui, c'est ça?
Oui, exactement.
Et des nouvelles qui arrivent pour monter comme vous en Amazone?
Ah oui, il y a beaucoup de jeunes femmes qui montent en Amazone maintenant. Oui.
Et ben voilà, merci beaucoup Rosine Lagier d'être venue partager avec nous votre
merci
passion du cheval. Votre livre Il y a un siècle, le cheval, est publié aux éditions Ouest-France.
Vous écoutez RTL.